Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Nous retrouvons ce soir Jacqueline Chaigneux-Gendron dans Du jour au lendemain. Elle publie Inventer le réel, le surréalisme et le roman 1922-1950 chez Honoré Champion. Quel dommage avec ces jeunes gens qu'il ne soit jamais question que de romans et autre chose du même genre. Jacqueline Chaigneux-Gendron, ce sont deux de vos livres sur le surréalisme qui reparaissent ces jours-ci chez Champion. Surréalisme, l'esprit et l'histoire, dont nous parlions hier soir, une approche générale du surréalisme, et Inventer le réel, le surréalisme et le roman 1922-1950, dont il va être question aujourd'hui. Ces livres, il faut le rappeler, ne sont pas des rééditions pur et simple d'ouvrages parus il y a 30 ans, ils ont été entièrement réécrits, voire réorientés, dit votre éditeur, réactualisés. Parce que, justement, depuis 30 ans, il s'est passé un certain nombre de choses dans votre champ de recherche et vous avez voulu en tenir compte.
Eh bien, d'abord, les éditions complètes ont paru. Presque complète. L'œuvre d'Aragon n'est pas tout à fait parachevée dans l'édition de la Pléiade, mais elle est à peu près entièrement accessible chez Gallimard. L'édition des œuvres complètes d'André Breton est parachevée avec la Pléiade et aussi le livre « Je vois, j'imagine » qui reprend les dessins et les montages, les objets fabriqués par André Breton. Quand on a un ensemble, on dit un corpus dans notre jargon, quand on a un ensemble complet sous la main, quand on a les œuvres complètes de Crevel sous la main, quand on a les réimpressions des revues sous la main, et celle des tracts dont je parlais hier aussi sous la main, on trouve que les lectures partielles qu'on a faites antérieurement ou par petits morceaux doivent être repensées. Et pour ma part, comme j'ai suivi tout cela de très près, je ne pouvais pas m'en détacher, Dieu sait pourquoi. À tout moment, j'ai été amenée à corriger, à remodeler, à changer un peu d'avis. Alors, en quoi c'est difficile de dire en deux mots ce que j'ai modifié dans mon regard. Mais je dirais que j'ai affermi cette idée vague que je glissais discrètement. Que certains psys avaient fort bien compris, fort bien lu le surréalisme, peut-être mieux que nous autres amateurs. Je pense notamment à Guy Rossolato, qui est un grand psychanalyste qui a grand homme de grande culture, et qui a disparu il y a peu d'années, il y a 2 ans, et qui avait donné de certaines pages du surréalisme de Breton, par exemple sur les grands transparents, des lectures absolument fascinantes. Donc il fallait que j'en tienne compte. Il y avait aussi cette manière qu'il a eue, lui et Guerosolato, d'insister sur l'origine de notre plaisir de lecture. Alors c'est drôle, si nous ressentons un plaisir de lecture, nous n'essayons pas de savoir d'où ça vient, nous nous satisfaisons. Mais analyser de plus près ces textes qui eux-mêmes parlent de plaisir, n'est-ce pas, c'est une espèce de boucle complexe, eh bien c'était pour moi une obligation. J'ajoute qu'on n'est jamais satisfait de soi-même, que j'avais un peu bémolisé l'apport de Philippe Soupeau, auquel je rends davantage hommage maintenant. Certes, c'est un poète fourvoyé dans le roman, mais c'est un grand poète et c'est un grand romancier, etc.
La question que je ne vous ai pas posée hier, c'est est-ce que votre rencontre avec le surréalisme a été un coup de foudre ? Vous lui avez quand même dédié votre vie de chercheuse au surréalisme.
C'est vrai, c'est vrai. Oui, bien entendu, c'est un coup de foudre. Alors, c'est un coup de foudre par le texte. C'est à l'âge adolescent la lecture de Julien Gracq. Je l'ai lu, voilà, 16 ans, 18 ans. L'œuvre n'était pas complète, bien entendu. Il y avait seulement les premiers au château d'Argolle. Et je sais encore dans quel train entre Tours et Paris, un camarade, un normalien, m'a prêté au château d'Argolle. J'étais tellement fascinée que j'ai demandé à Georges Blin de travailler sur ce texte au moment d'un travail universitaire qui a suivi de peu d'années. Et on m'a jeté dans le surréalisme, il m'a jeté dans le surréalisme parce qu'on ne pouvait pas travailler sur un auteur qui était encore vivant. Mais cet enthousiasme-là, évidemment. Et on ne peut pas s'en départir. Alors j'ai rencontré aussi j'ai rencontré Julien Gracq plus tard, j'ai rencontré de grands peintres surréalistes comme Jacques Hérold, j'ai travaillé avec José Pierre, Jean-Michel Gauthier, l'origine de cette passion était cette fascination que je dirais adolescente, hein, parce que à 16 ans, 18 ans, on n'est pas, dans ma génération, on n'était pas adulte, et donc on n'y comprenait rien. Et donc pour des personnes comme moi qui prétendaient tout comprendre, c'était une irritation de plus. J'ai eu une autre chance, c'est que juste après un concours difficile que j'ai passé, que j'ai passé très jeune, j'ai été jetée dans l'enseignement, et de l'enseignement de petits, je veux dire de collège. J'étais professeure dans un lycée de jeunes gens, à Tours encore, et donc mon adolescence s'est prolongée, si je puis dire, avec eux, puisque je ne leur faisais pas lire Breton, mais je leur ai fait monter, mais ils ont fait du théâtre avec moi, et nous avons monté Le Roi Pêcheur. Alors, on n'y comprenait rien, ni eux, ni moi. C'était extraordinaire. Et quand je disais que les étudiants étrangers, mes étudiants en thèse, nettement plus tard, m'ont appris, ils m'ont aussi appris à conserver cet émerveillement et cette certitude que je ne comprenais jamais jusqu'au bout, ces pages magnifiques.
Qu'est-ce que vous compreniez quand vous ne compreniez pas ?
Je comprenais qu'il fallait rester devant. Je suis restée devant pendant 30 ans. Et, Et de ci, de là, une petite lueur est apparue, comme celle que je citais hier au milieu du premier paragraphe du Surréalisme et la peinture, ou bien telle phrase, voilà, telle phrase ici ou là, qui, ou par exemple, cette phrase, ce projet de Breton, Aragon, Soupeau, qui projette collectivement d'écrire une lettre à l'aurore. Madame L'Aurore. Et alors, Breton
justement,
écrit...
vous avez dédié le deuxième livre à Madame L'Aurore.
J'ai dédié le livre à Madame L'Aurore. Alors, j'ai joué là-dessus aussi, puisque, en effet, bon, pour moi, un texte surréaliste ou une image surréaliste, c'est toujours une aurore qu'on va à venir immédiatement. Et puis, je ne peux pas cacher que notre fille s'appelle Laure et qu'il y avait un jeu aussi pour nous, pour moi, sur l'aurore et l'or.
Il y a aussi Aurora de Michel Léris.
Mais Michel Léris a tellement... comment dire, Michel Léris était tellement plus intellectuel que moi.
Vous parliez de Tours. Jacqueline Chenu-Gendron, Tours, c'est la ville de naissance aussi d'Yves Bonnefoy, qui a écrit de magnifiques textes sur André Breton et qui a côtoyé le mouvement pendant un certain temps.
C'est vrai. Et Yves Bonnefoy est sans doute le poète d'aujourd'hui que j'admire le plus. Il n'y a pas pour moi, j'ai essayé de les réconcilier sans grand succès, mais... Il n'y a pas pour moi de divergence fondamentale, autre qu'intellectuelle, parce que ce qui les rapproche, c'est l'exigence absolue. C'est tout.
Alors, venons-en à ce deuxième livre, intitulé « Inventer le réel, le surréalisme et le roman ». La question du roman, c'est sans doute, pour vous, une pierre de touche du surréalisme.
Oui. Parce que là aussi, on peut revenir sur la quasi-enfance, sur l'adolescence. Je suis bien sûr que, comme tout adolescent qui se respecte, j'avais envie d'écrire un roman. Et lire sous la plume de quelqu'un d'aussi étonnant que c'était vraiment un engagement médiocre et redoutable, ça m'a donné à réfléchir. Le roman, on ne peut pas le nier, est quand même une sorte d'aveu du réel, d'acceptation du réel. On peut le prendre dans tous les sens. On en revient quand même toujours un peu à cela. Moi, j'ai adopté cette idée-là. Je l'assume. Je ne peux pas lire. Il y a peu de romans que je puisse lire. Évidemment, je peux lire de merveilleuses fables. Je peux lire Saramago. Je peux lire aussi les derniers romans d'Aragon, bien entendu. Je peux lire les morceaux de... Mais là, je reviens à mes moutons et à mes amours. La compromission que représente l'écriture d'un roman, la compromission avec le monde tel qu'il est, me paraît une évidence éthique qui s'inscrit dans la démarche même de l'écriture.
Vous dites que cette question du roman se pose au surréalisme avant que la désillusion liée à l'écriture automatique n'ait commencé à se faire sentir, mais comme l'envers de l'espoir placé en elle.
Oui, c'est-à-dire l'envers, c'est-à-dire la doublure, je veux dire l'espoir dans l'écriture automatique a été énorme et il s'est très vite affadi. De sorte que la doublure est apparue et la fascination et le risque d'écrire des romans est apparu. Mais ce qui m'a frappé à partir de ce moment-là, c'est de voir combien un groupe d'amis aussi proches les uns des autres que pouvait l'être Aragon, Breton, etc., a pu écrire, pour chacun d'entre eux, des textes de prose aussi différents les uns des autres. Et cette disparité, cette diversité extraordinaire m'a retenue, et peut-être que c'est à cause de cela que j'y suis revenue sans trop de déplaisir, 30 ans après, si j'ose dire. Je me disais, je vais peut-être finir par comprendre pourquoi quand même, entre Crevel et Limbourg, entre Benjamin Perret et Breton, qui écrivent des choses si différentes, il y avait une démarche commune. Et alors, ma réponse, si réponse il y a, c'est qu'ils sont allés chacun si loin dans leurs complications personnelles, dans leur imaginaire personnel, que leur différenciation est apparue. Et ça, ça touche au langage de chacun, ça touche à cet enracinement si singulier qu'est le langage de ce poète, celui-ci et pas celui-là.
Et selon vous, Breton et Aragon se différencient par des positions philosophiques entièrement différentes. L'un, Breton, est tourné plutôt vers la phénoménologie, alors qu'Aragon serait proche du structuralisme.
Ça, c'est dans un premier temps. Et puis, peut-être qu'ils croisent le fer, je ne sais pas, et qu'ils croisent leur position. Mais, en tout cas, Breton évolue vers quelque chose qu'on pourrait appeler une herméneutique de la langue. J'emprunte ces termes très savants à Ricoeur, aux descriptions que fait Paul Ricoeur des différentes façons d'envisager le rapport tout simplement entre le langage et le monde. Et donc si on en revient à l'opposition d'origine entre Breton et Aragon, qui est une opposition foncière, c'est comme si l'un était, c'est comme si les marges de l'un étaient la page de l'autre, et réciproquement. Ils ont une complémentarité qui m'a toujours fascinée. C'est en tout cas comme cela que je les vois.
L'un, Breton, serait du côté de la métaphore, alors que l'autre, Aragon, serait du côté de la métonymie.
C'est ça, c'est ça. Et bien entendu, Breton commence par la métaphore et parachève par la métonymie. Il y a cette oscillation dans ce sens. Aragon aurait ce mouvement inverse de décrire et tout d'un coup de rapprocher deux termes dans une fascinante métaphore qui bloque le système.
Il ne faudrait surtout pas prendre les récits de Breton pour des romans. Hein. Nadja, une partie des vases communicants, l'amour fou, ce ne sont pas des fictions.
Ce ne sont pas des fictions, ce sont des récits oniriques d'une vie actualisée, d'une vie qui s'est produite ainsi. Ce ne sont pas des fictions. Mais la part du langage y est forte. Et dans la deuxième partie des vases communicants, par exemple, Breton réécrit son expérience. Ce n'est pas... On n'est pas là dans une... On n'est pas... C'est pas une écriture juxtalinéaire, n'est-ce pas ? On ne juxtapose pas au réel, serait-il merveilleux, une écriture qui suit tous ses méandres. On s'autorise de faire intervenir la métaphore langagière, l'image qui dit mieux le vrai que la linéarité.
Le rêve vrai. Vous parlez de reportages scrupuleux à propos de ces récits. Reportages scrupuleux d'aventures inouïes.
Oui. reportages scrupuleux, d'aventures inouïes. Si je prends Nadja, n'est-ce pas, dont les pas. La première partie, avec la description des faits, ce que Breton appelle les faits glissades, est une des faits glissades, hein, des faits qui font glisser. Est une série de petites anecdotes toutes surprenantes, toutes plus surprenantes les unes que les autres. Eh bien, oui, ce sont des ouvertures sur le merveilleux du quotidien. Mais chez Aragon, on trouve des ouvertures extraordinaires sur l'enfance. Sur les souvenirs d'enfance qui sont non moins extraordinaires. Simplement, l'œuvre surréaliste d'Aragon a été en très grande partie détruite par lui. Le roman qu'il envisageait d'écrire s'appelait La défense de l'infini, ni plus ni moins. Et dans ces pages qu'on a retrouvées en grande partie, il y a des souvenirs d'enfance qui sont extraordinaires. Par exemple, il y a dans la terre une puissance de songe. Jadis, dans les montagnes, je lis, jadis dans les montagnes qui bleuissent au bas du ciel de Lyon, enfant lâché au milieu des prairies, etc. Je subissais l'attrait de cet élément obscur. Cet élément, c'est la terre, n'est-ce pas ? Il y a dans la terre une puissance de songe. Je subissais l'attrait de cet élément obscur et je mangeais parfois, les yeux écarquillés, des mottes grasses d'où s'échappaient des brins d'herbe et des bêtes blanches. Nul doute que mon enfance est due à ces cérémonies magiques, les visions qui la peuplèrent. Donc, quand il parle de... Bon, ce sont des pages extraordinaires dont le paragraphe se clôt par « Le jour lointain des Pâques noires de mon imagination ». Les Pâques noires, donc cette façon qu'avait l'enfant Aragon, comme beaucoup d'enfants, de manger de la terre, n'est-ce pas ? C'est une perversion très commune. Est transformé là dans un passage mythologique.
Il y a chez Aragon un point toujours où on bascule du roman au poème ou à l'inverse du poème au roman.
C'est vrai.
Et chez lui, c'est un point que vous dites extrêmement sensible.
Eh bien, chez lui, le point sensible, je veux dire qu'il passe de l'un à l'autre. Aragon est un magicien. Bon. L'envers et l'endroit sont pour lui une seule et même chose. Le passage d'un instant à un autre est un passage qui est en même temps un pas de géant. Cette façon qu'il a d'écrire... Par métaphore et soudain, en avançant un pied devant l'autre et en décrivant par le menu telle ou telle petite chose, ça n'appartient qu'à lui. C'est en effet une sorte de d'éblouissement pour nous et d'éblouissement sans doute pour lui, de discontinuité parfaitement essentielle.
Comment vous interprétez le fait que la période romanesque et surréaliste d'Aragon s'achève par un échec, cette défense de l'infini qu'il a soi-disant détruit en presque totalité.
Il était trop ambitieux sans doute, n'est-ce pas ? La défense de l'infini, ça n'est pas rien. C'était un titre qui appelait beaucoup et peut-être trop. Il est possible que les critiques de Breton, que Breton lui a adressées, l'aient découragé. C'est, C'est un phénomène étonnant. Cette fragilité qu'il y avait chez Aragon, d'avoir écrit des centaines de pages et de les jeter.
1500 pages, dites-vous.
1500 pages, on dit ça. Et d'ailleurs, on en a retrouvé quelques-unes chez Nancy Cunard. Elles ont été rachetées, elles se sont trouvées aux États-Unis. Je les ai vues. C'est extrêmement émouvant, extrêmement surprenant de voir des pages à moitié déchirées, à moitié dévorées par des... peut-être par des rats, je ne sais pas. Enfin, je mythologise encore tout cela.
Donc, cet échec, mais cet échec ne doit pas faire oublier Anicet ou le Panorama, dès 1920, ou Les aventures de Télémaque, qui est une sorte de manifeste de l'écriture, et puis Le paysan de Paris.
Et puis Le paysan de Paris. Alors, Le paysan de Paris est considéré par les spécialistes d'Aragon comme de la poésie. Moi, je le lis comme une promenade dans Paris, une promenade onirique et qui produit du sens et qui avance qui avance d'histoire qui est l'histoire de la rencontre d'abord entre quelques amis et ensuite l'histoire d'une rencontre avec une femme dans un jardin.
Vous arrivez en tout cas à la conclusion que il n'y a pas de roman surréaliste, mais un romanesque épars et fort qui a les couleurs du merveilleux moderne.
Oui, je ne peux pas dire autre chose. Je crois que cette veine-là que les surréalistes des années 20-30 ont trouvée, elle a eu beaucoup de peine à se retrouver après la guerre, et je ne comprends pas pourquoi l'écriture d'aujourd'hui n'a pas, en France du moins, n'a pas fait le lien avec, ne s'est pas servi de ce tremplin-là, ou de cette note, de ce diapason, pour continuer sur cette lancée.
Il y a eu bataille, tout de même.
Alors, bataille, c'est autre chose, n'est-ce pas ? C'est tout de même la fascination. Alors, je parlais de révélation noire à propos de Breton. On pourrait reprendre cette formule pour parler de la révélation de la sexualité noire chez Bataille et du sacré qui s'ensuit. C'est en effet, bon, les quelques récits érotiques de Bataille sont des chefs-d'œuvre, mais là aussi qui n'ont pas pu avoir de suite en France. Je ne vois pas d'équivalent.
On pourrait citer également Antonin Artaud.
On pourrait citer Antonin Artaud qui s'est dont la stridence a été beaucoup plus ramassée.
Il y a quelqu'un dont vous me parliez juste avant l'émission, c'est Georges Limbourg, quelqu'un qui n'a pas été reconnu à sa juste mesure.
Georges Limbourg est le conteur merveilleux du surréalisme, en effet. Et lui, je ne lui ai peut-être pas fait une part suffisante dans mon livre, parce que en bonne universitaire, j'ai voulu m'arrêter aux dates que j'avais indiquées, 1950. Mais il est clair que les dernières œuvres romanesques de Georges Limbourg, qui sont donc postérieures à 1950, sont pour moi des chefs-d'œuvre surréalistes. Et ce sont des contes qui... ce sont des contes longs et des fables qui se développent pour notre immense plaisir.
la métaphore privilégiée jusqu'au bout.
La métaphore privilégiée jusqu'au bout.
Il y a peu de temps, Françoise Nicole est venue ici, à ce micro, pour présenter un très gros volume, « Spectateur des arts », qui rassemble tous les textes de Limbourg sur l'art. Et justement, elle défendait cette idée que vous ne partagez peut-être pas, selon laquelle c'est dans ces textes de critique d'art que Limbourg a été le plus inventif dans la narration.
Ça me paraît très très juste. J'adhère. J'adhère tout à fait à cette position.
Mais bon, ça ne permet pas d'oublier l'enfant polaire ou yeux de verre ou réverbère africain ou la maison de Fatima. Mais c'est pas dans ces textes là que Limbourg est le plus convaincant comme romancier.
Ah mais si. Je n'ai pas à établir de hiérarchie entre les écrivains merveilleux que j'ai, une quinzaine d'écrivains, tous plus talentueux les uns que les autres, que j'ai pu regarder de très près. Si vous me demandez mes choix très, très personnels, je dirais que je suis en effet dans Limbourg, j'oserais dire chez moi, c'est-à-dire dans un lieu merveilleux, de bout en bout. Mais comme je tente d'être objective, universitaire, tout, sage, chercheur, CNRS, je constate que Limbourg a quitté le groupe surréaliste en 1929-30. Alors, je ne veux pas brouiller les pistes et je réserve à des conversations privées ce goût que je viens de formuler.
Et puis, il y a d'autres noms que nous n'avons pas cités. Je pense à Leonora Carrington, à Benjamin Perret, à Giorgio de Chirico.
Chirico, avec ce roman tellement étrange, Hebdomeros. Mais Leonora Carrington est aussi une des grandes écrivaines du surréalisme que j'ai eu la chance de connaître et de traduire même. C'est une conteuse extraordinaire, mais dans un genre plus méchant que celui de Georges Limbourg. Si l'on veut me faire dire ce que ceux de, chez lesquels je suis chez moi, comme je disais, je dirais Limbourg et je dirais aussi je suis chez moi dans la méchanceté de Leonora Carrington.
Les deux livres de Jacqueline Chaigneux-Gendron, Inventer le réel, le surréalisme et le roman, et Surréalisme, l'esprit et l'histoire, sont publiés chez Honoré Champion. Du jour au lendemain, Philippe Brodin, Anne Franchini, Didier Pinault, Alain Weinstein. Bonsoir.